Radio Libertaire 89.4, Remue Méninge féministe jusqu'à 14h30.
Place maintenant à l'interview de Anna Louana Stoïcea Deram
de la SIAMS
au sujet de la GPA, la gestation pour autrui.
Bonne écoute.
Bonjour Anna Louana, merci de bien vouloir répondre aux questions pour Remue Méninge féministe sur Radio Libertaire concernant la maternité de substitution. Est-ce que tu veux bien te présenter à nos auditrices et auditeurs de Radio Libertaire pour commencer ?
Bonjour Catherine Morin-Lessec et merci beaucoup à l'émission Remue Méninge pour cette invitation. Je suis donc Anna Louana Stoïcea Deram. Je suis membre du collectif pour le respect de la personne et l'une des trois coprésidentes fondatrices de la coalition internationale pour l'abolition de la maternité de substitution. Je me vois comme une féministe, activiste féministe, aussi bien je l'ai été en Roumanie, qui est mon pays d'origine, et en France. Notamment, je milite pour l'abolition de la prostitution et de la GPA.
Pour donner une idée, combien d'années milites-tu contre la GPA ?
Concernant la GPA, ma prise de position a commencé avec mon intégration du CORP, du collectif pour le respect de la personne, en 2014. Donc, ça va faire maintenant un peu plus de 7 ans.
Merci. Yannick Jadot, candidat écologiste prétendant au trône pour la présidence française, s'est prononcé en faveur d'une GPA éthique. Et a déclaré récemment sur Europe 1, le 16 décembre dernier, devant la journaliste Laurence Ferrari. Je lutterai toujours contre la marchandisation du corps des femmes, c'est un principe absolu. Il y a parfois des situations, vous avez deux sœurs, il y en a une qui ne peut pas avoir d'enfant et l'autre peut prêter son ventre pour sa sœur, ça existe. J'aimerais avoir ton avis par rapport à ce qu'il dit, puisque ça paraît quand même un peu contradictoire. D'un côté, de prendre une position contre la marchandisation du corps des femmes, et d'un autre, de se prononcer en faveur d'une GPA éthique.
Oui, merci. Merci de ramener la discussion sur cette déclaration de Yannick Jadot, qui est le candidat donc d'Europe Écologie Les Verts. C'est très surprenant d'entendre un écologiste s'exprimer de la sorte sur une pratique qui repose quand même sur une grossesse surmédicalisée. Autant les écologistes peuvent prendre position contre les OGM, contre tout ce qui touche à la reproduction artificielle du vivant, autant, malheureusement, plusieurs parmi eux et parmi elles se disent pour la GPA. Alors qu'ils affublent de cet adjectif éthique, cela leur appartient, je ne sais pas du tout ce qu'ils mettent derrière, mais qu'en donnant une pensée écologiste, il n'est pas possible de ne pas voir toute la pollution que cela contribue de faire sur le corps de la femme. C'est-à-dire que c'est un corps qui est bourré d'hormones, bourré de médicaments, qui est exposé à des risques pour la santé de la femme à court, moyen et long terme. Donc, d'un point de vue écologiste, d'abord, c'est vraiment très paradoxal que le candidat ne fasse même pas référence à ces risques-là, qui sont réels, encore une fois, pour la santé de la femme et bien évidemment pour la santé de l'enfant à naître, puisque dorénavant, on a des recherches médicales qui ont montré les risques pour les enfants et notamment le risque de prématurité, de petits pois à la naissance, avec tout ce que cela peut avoir comme conséquence sur le développement ultérieur de l'enfant. Ça, c'est un premier point, cet aspect paradoxal concernant un candidat écologiste. Ensuite, la mention de la marchandisation concernant les femmes, le candidat semble négliger totalement le fait que si marchandisation il y a, elle est le fait des clients et des prestataires. C'est-à-dire que si des femmes se voient proposer de l'argent pour porter une grossesse, c'est parce qu'il y a des personnes qui veulent proposer de l'argent pour obtenir un enfant. Il y a des clients. Ces clients trouvent des prestataires qui font intermédiaire et qui développent tout un marché. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la question des femmes qui acceptent l'argent, il y a surtout la question de ceux qui le proposent. C'est comme pour la prostitution, le problème c'est la demande et le fait qu'on nourrit cette demande-là et qu'on encourage les personnes à croire que ça serait non seulement possible, mais en plus légitime d'avoir recours à cette pratique. Enfin, l'expression « prêter son ventre », il me semble bien que c'est ce que tu disais tout à l'heure, une sœur qui prêterait son ventre à sa sœur, ça montre bien là encore l'image qu'a de la femme le candidat Yannick Jadot. Peut-on prêter son ventre? C'est-à-dire, est-ce que le ventre de la femme, le ventre reproductif de la femme, est-il aliénable? Est-il détachable du corps de la femme? Peut-on faire campagne pour l'élection présidentielle? Par exemple, tiens, je me présente à une élection et pendant ce temps-là, je prête mon ventre qui, de son côté, va s'occuper à préparer un bébé pour ma sœur, pour mon frère, que sais-je encore. Bien évidemment, et je suis désolée pour ce cynisme, ça n'a rien à voir avec la réalité de la vie. Et on peut très bien imaginer la situation où le législateur, espérons qu'il ne va pas arriver à ces extrêmes, le législateur accepterait de prévoir d'envisager la GPA entre sœurs. Peut-on imaginer des discussions de famille, des réunions de famille dans lesquelles je vais demander à ma sœur de porter un enfant pour moi et ma sœur refuser? Qu'est-ce que ça donnerait derrière? Peut-on s'imaginer la pression que ça va mettre sur les femmes, la pression sur les relations familiales? Déjà, on parle de pression à la maternité pour beaucoup de femmes, et je le sais parce que tous les ans, quand j'aborde avec mes étudiants la question de la maternité, il y en a toujours des jeunes femmes qui le disent, qu'elles sentent cette pression-là. Peut-on imaginer que ça va engendrer dans les familles comme pression de la part de ceux d'abord et celles éventuellement qui vont demander à leur sœur de faire des enfants pour elle? Bien évidemment que c'est une vision totalement faussée par rapport à l'immensité du marché mondial que le candidat Yannick Jadot semble négliger ou en tout cas oublier de mentionner.
En plus, c'est assez curieux de citer cet exemple. On sait très bien, quand on connaît le sujet, que ces histoires de famille, si cela a existé ou existe, c'est extrêmement minoritaire dans la question de la GPA.
Je constate que très souvent, les hommes qui parlent de la GPA, parce que c'est très généreux pour les hommes de s'occuper de ce que les femmes ont à faire avec leur ventre, notamment entre sœurs, il se trouve que j'ai fait publier une tribune à ce sujet concernant la déclaration de M. Yannick Jadot. Et ma tribune a été suivie d'une tribune en réponse dont l'auteur donnait justement cet exemple-là, la situation entre deux sœurs. Alors que bien évidemment, et notamment ce qu'on voit aujourd'hui dans la plupart des médias, ce n'est pas du tout des situations entre des sœurs. Par ailleurs, les médecins, les psychologues et les psychanalystes en France, mais ailleurs aussi, ont eu connaissance de ce genre de situation et ils les ont déplorées.
D'autre part, ça m'amène à te poser une autre question, avoir ton avis concernant une prochaine émission sur une chaîne publique, hélas, concernant la GPA, une grande émission. Et j'aurais aimé savoir si la SIAMS, qui est une association, enfin une coalition qui existe dans 13 pays du monde et qui rassemble une quarantaine d'associations, donc qui est très pointue sur le sujet de la GPA. J'aimerais savoir si vous avez été contacté, si vous avez été invité à cette émission qui va parler de GPA, je crois, pendant 2 ou 3 heures.
La SIAMS a été sollicitée une seule fois par une chaîne publique de radio qui était France Inter. Ça remonte maintenant à il y a un peu plus de 2 ans. C'était à l'occasion de l'intervention d'un animateur sur une émission sur France Inter dans la matinée. Cet animateur venait présenter son livre dans lequel il faisait l'apologie de la GPA. Et un journaliste collaborateur de cette émission avait souhaité donner la parole aussi au point de vue féministe qui est critique de la pratique. Dans l'émission qui durait, je ne sais plus, à peu près 1 heure, le point de vue des féministes, donc nous avons passé 1 heure, on était 4 ou 5 à rencontrer ce journaliste qui nous a posé des questions. On a passé près 1 heure avec lui et on a retenu 3 minutes enregistrées qui ont été passées donc lors de l'émission et qui ont suscité les ricanements gras entre l'invité animateur télé et le journaliste qui le recevait, qui n'était pas le journaliste qui nous avait interrogé, nous, féministes. C'est la seule et unique fois, c'était en 2019, je crois, c'est la seule et unique fois où la SIAMS a été sollicitée par, par un média public, que ce soit la radio ou la télévision. Donc, visiblement, l'expertise que nous avons acquise n'est pas du tout considérée comme étant importante par les médias publics en France, qui, par ailleurs, s'en donnent à cœur joie pour faire de la propagande. C'est quelque chose que j'ai eu déjà l'occasion de dénoncer, notamment dans le mensuel La Décroissance, il y a quelques années déjà, parce que le GORP, le collectif dont je fais partie, avait porté plainte contre France Télévisions pour propagande. C'est ce que France Télévisions fait depuis plusieurs années. Le GORP a également écrit au CSA pour les informer du fait que France Télévisions ne fait pas son travail d'information. France Télévisions n'informe pas. Toutes les chaînes de médias publics font de la propagande, c'est-à-dire qu'il y a un point de vue unique qui est présenté, qui est le point de vue des clients. Et c'est uniquement dans cette perspective-là que les choses sont abordées. Je connais déjà d'autres émissions qui ont été produites aussi bien sur France 2 que sur France 3. Je sais par exemple que France 3 a diffusé à une heure de grande écoute en soirée, en pleine semaine, il y a 2 ans, une émission pour faire de la publicité pour une clinique ukrainienne. Émission dans laquelle France 3, dans les quelques minutes de reportage, qui est en fait un publi-reportage, il reprenait une vidéo promotionnelle réalisée par le directeur de la clinique en question, dans lequel, à la télé en France, on exposait les prix, les programmes et les conditions de réalisation. À la télé en France, en 2019 ou 2020, sur France 3, on avait des informations concernant le prix pour obtenir une sélection du sexe de l'enfant, le prix pour obtenir le meilleur bébé, le bébé sain, la garantie bébé sain, et ainsi de suite. Des prestations de type illimité, FIV illimité, c'est-à-dire autant d'insémination que nécessaire pour obtenir l'enfant que vous souhaitez. Et ce type de prestations, donc promues par le directeur de la clinique ukrainienne en question, étaient reprises telles quelles par France 3 dans cette émission. Nous en avons informé le CSA qui n'a pas branché. Nous n'avons même pas eu de réponse. L'ensemble des émissions qui sont organisées sur France Inter, France Culture, France Info et sur les chaînes de télévision sont des émissions pro-GPA. Il serait intéressant d'ailleurs de savoir qui sont les journalistes, les chefs de service qui prennent ces décisions, d'où vient l'argent, comment se fait-il qu'on peut accepter que l'argent soit dépensé pour un seul point de vue? Qu'est-ce que c'est que cette déontologie journalistique qui est complètement opaque à la diversité des points de vue? Comment se fait-il qu'aucune chaîne publique n'estime nécessaire d'organiser, de réaliser une émission sur « voici quel est le point de vue de la France, voici quelle est la logique de la loi ». Peut-être que le législateur ne s'est pas trompé complètement au moment où il a décidé d'interdire la GPA en France. Par ailleurs, je rappelle que même il me semble que M. Jadot faisait référence au fait qu'il ne souhaiterait pas ouvrir le débat sur la GPA. Un député LREM a trouvé malin de relayer la tribune faisant la promotion de la GPA en disant que le débat doit être ouvert lors d'une prochaine c'est pas magistrature, c'est pas candidature de mouvement. Dans les prochaines années, je rappelle que le débat a déjà eu lieu. Il a été organisé par le Comité consultatif national d'éthique qui a produit un rapport dans lequel il dit très clairement que la GPA est un cumul de violences faites aux femmes. C'est l'avis 126 publié en 2017. Il a été adopté à l'unanimité, c'est-à-dire que l'ensemble des membres du Comité consultatif national d'éthique ont été d'accord pour voter cet avis. Cet avis a été renouvelé en 2019, intégralement. Personne n'y fait référence. Voilà. Donc, il y a tout un ensemble d'éléments qui existent, des informations qui sont étayées, des arguments qui sont référencés, dont les médias publics ne font pas du tout usage, comme si cela n'existait pas. En revanche, ils s'orientent toujours vers les clients qui ont du mal en France à faire passer leur choix de vie. Évidemment, comme vous le voyez, voilà, je suis extrêmement critique et que France 2 ou une autre chaîne de télé entend réaliser d'autres émissions encore à la gloire du marché des êtres humains et de la vente d'enfants et de l'exploitation des femmes. Et voilà, c'est, quand on parle d'ailleurs de débat sur la GPA, de quoi s'agit-il? Est-ce qu'on va débattre sur les violences faites aux femmes? Est-on pour ou contre les violences faites aux femmes? Est-on pour ou contre la vente d'enfants? Car c'est de vente d'enfants qu'il s'agit. C'est techniquement, juridiquement, de vente d'enfants qu'il s'agit, c'est-à-dire de vente d'êtres humains. Ça a un nom, ça s'appelle l'esclavage.
Merci. Vous savez, c'est tout à fait... C'est pas parce que c'est la dernière, mais c'est tout à fait fantastique que de travailler avec des êtres humains et non pas des robots ou je ne sais quoi. Pour qui, comment, quand et pourquoi? Contre qui, comment, contre quoi? C'en est assez de vos violences. D'où venez-vous? Où allez-vous? Qui êtes-vous? Qui priez-vous? Je vous prie de faire silence. Pour qui, comment, quand et pourquoi? S'il faut absolument qu'on soit contre quelqu'un ou quelque chose. Je suis pour le soleil couchant en haut des collines désertes. Je suis pour les forêts profondes. Car un enfant qui pleure, qu'il soit de n'importe où, est un enfant qui pleure. Car un enfant qui meurt au bout de vos fusils est un enfant qui meurt. Que c'est abominable d'avoir à choisir entre deux innocences. Que c'est abominable d'avoir pour ennemi le rire de l'enfance. Pour qui, comment, quand et combien? Contre qui, comment et combien? À en perdre le goût de vivre. Le goût de l'eau, le goût du pain et celui du perlimpinpin dans le square des Batignolles. Et pour rien, pour presque rien, pour être avec vous et c'est bien, mais pour une rose. Respiration, et pour un souffle d'abandon, et pour un jardin qui frissonne. Ne rien avoir, mais passionnément, ne rien se dire éperdument, ne rien savoir avec ivresse. Et riche de la dépossession, n'avoir que sa vérité, posséder toutes les richesses. Ne pas parler de poésie, ne pas parler de poésie, en écrasant les fleurs sauvages. Et faire jouer la transparence au fond d'une cour au mur gris, où l'aube n'a jamais sa chance. Contre qui ou bien contre quoi? Pour qui, comment, quand et pourquoi? Pour retrouver le goût de vivre. Le goût de l'eau, le goût du pain et celui du perlimpinpin dans le square des Batignolles. Et contre rien, contre personne et contre rien, mais pour une rose entrouverte. Et pour une respiration, et pour un souffle d'abandon, et pour un jardin qui frissonne. Et vivre, vivre passionnément. Et ne combattre seulement qu'avec les feux de la tendresse. Et riche de dépossession, n'avoir que sa vérité, posséder toutes les richesses. Ne plus parler de poésie, ne plus parler de poésie, mais laisser vivre les fleurs sauvages. Et faire jouer la transparence au fond d'une cour au mur gris, où l'aube aurait enfin sa chance.
Salut à tous!
Le Comité consultatif national d'éthique a adopté en 2017 un avis, l'avis 126, dans lequel il est explicitement dit que la GPA est un cumul de violences faites aux femmes. Cet avis 126 a été adopté à l'unanimité.
Un avis donc défavorable à la GPA.
Absolument. Et d'ailleurs, le Comité consultatif national d'éthique indique dans ce même avis 126 qu'il serait souhaitable, et c'est d'ailleurs ce qu'il recommande, que la France s'engage dans un combat international pour l'abolition de cette pratique, puisque si, comme ils l'ont montré, cette pratique repose sur une exploitation des femmes, et ça, on le sait, et à la SIAMS, on l'a beaucoup étudié, notamment Marie-Joseph de Villers l'a très bien montré à travers ses articles et ses exposés portant sur la géographie de la GPA. Si ça représente l'exploitation des femmes dans un pays, c'est que les clients de partout profitent de cette exploitation, profitent de cette vulnérabilité des femmes, profitent de ces inégalités dont les femmes sont victimes. Et par exemple, aujourd'hui, on vient de le voir là, en janvier, 22 janvier 2022, que Alla Doumarus, une députée communiste, propose l'interdiction en Russie de la maternité de substitution, dont elle dit très clairement que c'est de l'exploitation et de la vente d'enfants. C'est une députée communiste. Donc, elle sait très bien ce qui se passe avec l'exploitation des femmes russes, aussi bien pour la prostitution que pour la GPA. Qui sont les clients ? Eh bien, il y a de nombreux clients, par exemple, français, qui ont obtenu des enfants en Russie. Et il y a des clients, d'ailleurs, du monde entier. Mais on le sait, il y en a en France. Et il n'y a aucune honte. Bien au contraire, ces clients ont un sentiment d'impunité qui est, hélas, très fortement soutenu par les médias publics. Je ne parle que des médias publics et non pas des médias privés, parce que les médias publics engagent et dépensent l'argent public. C'est l'argent des contribuables. Après, voilà, les médias privés, ils font ce qu'ils veulent, ils disent ce qu'ils veulent, ils s'appuient, enfin, c'est les clients qui achètent ou qui n'achètent pas. Mais les médias publics, on a quand même des attentes par rapport à leur fonctionnement pour avoir une présentation un peu équilibrée. Ce n'est pas du tout le cas, et cela depuis des années.
Merci, Anna Luina. Et pour terminer, j'aimerais bien que tu nous parles des recherches que tu as commencées concernant les décès des femmes suite à une GPA.
Je suis très prudente par rapport à l'emploi du terme recherche. Il ne s'agit pas d'une recherche dans le sens académique du terme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une méthodologie établie ni une systématicité. J'ai procédé simplement à des recherches à travers la presse, à travers également des documents, notamment des livres qui ont été écrits et qui n'existent pas, qui ne sont pas disponibles sur les réseaux sociaux ou sur Internet. Donc, j'ai cherché à savoir ce qui se passait dans le cas où les femmes décédaient, parce qu'on le sait, hélas, que les femmes peuvent encore décéder en couche ou après, ou pendant après l'accouchement, ou même pendant la grossesse. Et comme les grossesses de GPA sont des grossesses à risque, parce que, encore une fois, très fortement médicalisées.
Toutes les grossesses sont à risque. Toutes les grossesses sont à risque. J'ai une amie qui vient d'accoucher, qui a fait une grosse hémorragie. Si elle avait accouché dans d'autres conditions, dans un autre pays, elle en serait décédée. Donc, il faut savoir aussi que toutes les grossesses sont déjà à risque pour une femme. Donc, encore bien plus, je suppose, une grossesse pour GPA.
C'est-à-dire que la grossesse est une circonstance qui augmente les risques pour la santé et la vie de la femme. La grossesse en tant que telle. Les grossesses GPA sont des grossesses qui sont obtenues avec aujourd'hui de plus en plus des ovocytes qui sont étrangers au corps de la femme et avec le sperme d'homme avec lequel la femme n'a pas de rapport sexuel. Alors que dans une grossesse naturelle souhaitée, la femme se retrouve enceinte, bien évidemment, avec ses ovocytes et du sperme d'un homme avec lequel elle a l'habitude et son corps a l'habitude d'avoir des rapports. Ce que montrent certaines études qui sont publiées aujourd'hui, par exemple une étude qui a été réalisée en 2019 et qui a été publiée en 2020, qui a été réalisée par un centre de fertilité de l'Illinois aux États-Unis, c'est que l'utilisation d'ovocytes autres que ceux de la mère augmente le risque pour la santé de celle-ci, augmente le risque pour la santé de la mère pendant la grossesse. Cette même étude montre que les risques périnatales, hémorragie, saignement, diabète gestationnel, ainsi de suite, augmentent, sont 2,5 fois plus importants que dans les grossesses naturelles portées par ces mêmes femmes. C'est-à-dire que c'est une étude comparative concernant les grossesses que des femmes ont eues pour elles-mêmes, en quelque sorte, leur grossesse naturelle, et les grossesses que ces femmes ont portées aussi par GPA, les grossesses commandées. Et en faisant la comparaison, les chercheurs, qui sont des médecins, se sont aperçus du fait qu'il y a un risque 2,5 fois plus important. 25% des grossesses GPA ont présenté des risques périnatales, alors que moins de 10% des grossesses spontanées naturelles ont présenté des risques pour les mêmes femmes. On voit donc que, et encore une fois, c'est une étude réalisée aux États-Unis par un centre de fertilité. Ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir que dans ces études américaines, ce qui prédomine est le point de vue des clients. C'est-à-dire qu'elles sont réalisées pour montrer le bénéfice d'avoir recours aux techniques d'insémination artificielle. Et on parle d'abord des clients qui sont désignés comme étant des patients, alors que les femmes enceintes ne sont pas désignées comme des patientes elles-mêmes. C'est extrêmement surprenant et ça met très mal à l'aise. Donc, en connaissant les risques, bien sûr, de la grossesse en tant que telle et encore plus d'une grossesse GPA pour la femme, je me suis questionnée sur ce qu'il en est dans la situation où la femme décédée. On avait pu discuter encore une fois en tant que membre du COP en participant à nos discussions. Il s'est avéré que des personnes avaient eu connaissance des situations extrêmement graves qui s'étaient produites, y compris en France, au moment où la pratique semblait démarrer dans les années, fin des années 80, début des années 90. Des situations avaient été connues également en Belgique, dans d'autres pays européens. Donc, c'était un aspect qui m'a beaucoup intéressée, d'autant qu'il est absent. Complètement absent des médias. Personne ne s'intéresse à ça. Moi-même, j'ai publié un ou deux articles sous forme de tribune. Donc, c'est dire l'intérêt que cela suscite pour les journalistes. Donc, j'ai essayé de faire des recherches et j'ai trouvé j'ai pu documenter des situations de femmes qui sont décédées en Inde, en Ukraine, aux États-Unis, en Grande-Bretagne. Et ça, ce sont les situations, encore une fois, qui sont documentable dont on peut trouver aujourd'hui trace. Et la question se pose, qu'en est-il de toutes les femmes dont on ne trouve pas trace? Qu'en est-il de toutes ces femmes qui sont décédées pour faire plaisir à d'autres et dont on ne dit rien? Et ce qui est très grave, c'est que ces situations suscitent là encore le cynisme et le rejet de la part des clients, et que à chaque fois que j'ai pu communiquer sur les réseaux sociaux des informations là-dessus, il se trouve systématiquement des hommes qui viennent dire, et il y en a un qui est haut fonctionnaire dans des ministères, parce que j'ai voulu chercher savoir qui est cet homme qui s'exprimait en son nom sur ma page Facebook et qui est venu dire il y a quelque temps, soyons sérieux, combien de femmes sont mortes en GPA? C'est ça le point de vue des hommes, peut-être clients. Je ne sais pas si lui-même il est client, mais en tout cas, c'est un homme que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, qui est venu critiquer mes posts sur ma page Facebook, ma page personnelle, et pour me critiquer parce que j'osais dire que des femmes meurent en GPA aujourd'hui. Je précise et je tiens ça à la disposition de tous les journalistes qui seraient intéressés de savoir qui est cet homme, que j'ai la capture d'écran des échanges avec cet homme. J'ai la capture d'écran. Et un jour, je vais la publier pour lui faire honte. Ce qui m'intéresse n'est pas lui en tant que personne. Ce qui m'intéresse, c'est de quoi cet homme est le symbole. Il est le symbole de l'impunité des hommes qui mettent les femmes dans de gros risques, des hommes qui ne se soucient jamais de la vie encore moins de la santé des femmes, mais même quand il s'agit de la vie des femmes, soyons sérieux, combien de femmes sont mortes en GPA? Eh bien, ce monsieur-là, il ne prendra jamais le risque, lui, de mourir en GPA. Et quand on voit les réactions d'autres hommes aujourd'hui, par exemple sur Twitter, quand il vient nous expliquer que eux, ils sont très heureux d'avoir eu leurs enfants. Bien évidemment que derrière, on comprend bien qu'aucun journaliste qui les interroge n'aura la curiosité d'aller voir eh ben, effectivement combien de femmes ont risqué leur vie, combien de femmes ont fait une grossesse ou un placenta previa, qui sont les saignements pendant la grossesse, ainsi de suite. Donc, moi, j'ai trouvé plusieurs situations de femmes qui sont décédées. Et ce qui devient aujourd'hui très préoccupant, par exemple, aux États-Unis, c'est que certaines de ces femmes, suite à leur décès, c'est la clinique qui prend en main l'organisation d'une cagnotte publique. C'est la charité publique qui doit soutenir la famille. On a ça aussi, on a pu documenter ces situations. Pour l'une d'entre elles, on demande l'anonymat, prétendument la famille qui demande l'anonymat. C'est-à-dire que lorsqu'elles font don de leur vie, lorsqu'on peut les mettre en avant sur les réseaux sociaux, dans les émissions de télévision, on les met en avant avec leur nom et avec leur sourire étincelant à côté des clients satisfaits en disant « voilà, une telle, qui nous a fait plaisir ». Dès qu'elle est morte, on va l'invisibiliser encore plus en demandant à ce qu'elle reste anonyme. C'est absolument honteux ce qui se passe. C'est absolument honteux, non seulement du fait que personne ne s'intéresse, personne ne parle de ça, mais qu'on voit qu'aujourd'hui, les agences, les cliniques tentent de prendre en main, y compris la gestion post-mortem de ces femmes. Laissez, c'est nous qui nous occupons. Pourquoi ? Parce que c'est encore une fois la possibilité de se faire valoir pour les autres cliniques, parce que les dons qui sont faits, et on les voit à côté, sur la page de la cagnotte, on voit qui a fait des dons et de quel montant. Et donc, d'autres cliniques, des cabinets d'avocats, des médecins, des ceci, cela, vont faire des dons pour pouvoir par la suite dire, bah voilà, regardez notre générosité, $500, $1,000, c'est formidable, on va soutenir la famille. Bon, la pauvre femme, elle est morte, elle est plus là, mais on soutient quand même la famille. C'est absolument honteux. On n'entend pas ça sur France 2, on n'entend pas ça sur France 3, on n'entend pas ça sur France Inter, on n'entend pas ça sur France Culture. C'est des choses qui n'intéressent pas les médias publics en France. On se demande pourquoi ? Non. On ne se demande pas pourquoi, parce qu'en fait, on voit très bien que c'est des intérêts de caste qui sont défendus. Donc, moi, je suis très, très en colère parce que ces situations de femmes décédées sont, encore une fois, passées sous silence, ignorées et traitées avec énormément de cynisme, parce que des hommes hauts fonctionnaires dans des situations de pouvoir en France, dans les ministères et dans les autres institutions de l'État, des hommes hauts fonctionnaires dans les institutions de l'État, sont très méprisants, et ils expriment sur les réseaux sociaux leur mépris concernant les femmes qui risquent leur santé et qui sont mortes en GPA. Et quand on connaît le pouvoir de ces hommes et quand on voit à quel point ils sont nombreux, on comprend très bien pourquoi le sort des femmes n'intéresse personne. Donc vraiment, j'apprécie beaucoup cette invitation à Radio Libertaire et encore une fois, merci beaucoup Catherine Morin pour cette invitation.
Merci Anna Luna, c'est nous qui te remercions.
Si de cada gota de sang versada per l'infant, si de chaque goutte de sang versée par un enfant brouillait une rosée, jaillissait un coquelicot, la terre pronte se deviendrait, la terre ne serait plus bientôt qu'une énorme boule rouge, qu'une énorme boule rouge, qu'une énorme boule rouge, 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 rouge. Rouge comme la vergogne, rouge comme la honte, que devrait empourprer les nostres cares, qui devrait empourprer nos visages. Si tu gagnes mes courage, si
si nous avions le courage de mirar nos bemirat, de nous regarder, de nous voir, quand nous passons devant un miroir, quand nous passons devant un miroir. Ah, si nous avions le courage de nous voir, si de cada gota de sang versada per l'infant brouillés une roselle, la terre pronte es devindria un enorme bol rose, un enorme bol rose, un enorme boule rouge, rouge.
Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. Romy Méninge, féministe, jusqu'à 14h30. Nous venons d'entendre une interview d'Anna Luana Stoicea Deram de la SIAMS avec les séquences musicales de Catherine Ribeiro au Bouffe du Nord à Paris en 1995, qui chantait Perlimpinpin, une chanson écrite par Barbara. Et à la fin de l'interview, une boule rouge, chantée par Serge Ujiroyo, chantée en catalan et en français à l'Européen à Paris en juin 2002.